Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Cela faisait longtemps que je voulais parler des violences éducatives ordinaires. Quoi de mieux que de le faire dans le cadre du Podcaston, l'événement des podcasteurs pour les associations. J'ai décidé de mettre en lumière le travail extraordinaire de l'association Stop VO avec sa fondatrice Céline. Dans cet épisode, nous avons parlé de ce que sont les violences éducatives ordinaires, de pourquoi elles sont si nocives pour les enfants, les parents et la société en général, et enfin pourquoi absence de violence ne veut absolument pas dire négligence éducative. Car oui, nous entendons encore trop aujourd'hui que sans violence, l'autorité parentale ne peut être exercée. Céline nous rappelle pourtant une chose dont je suis intimement persuadée. Les enfants sont naturellement bons, alors respectons leurs droits. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Céline.
Bonjour Stéphanie.
Je suis ravie qu'on se rencontre aujourd'hui, en plus dans le cadre d'un événement qui m'est cher, c'est le Podcaston, un événement caritatif réunissant le monde du podcast pour faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes. Et j'ai choisi pour cet événement ton association que tu as fondée en 2016, qui s'appelle Stop VEO, donc VE pour violence éducative ordinaire, une enfance sans violence. Et grâce à cette association, cela a notamment abouti à l'adoption de la loi en 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires en France. Donc ce n'est pas rien. Avant qu'on revienne sur ce magnifique parcours, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que sont les violences éducatives ordinaires ?
Oui, merci Stéphanie pour cette introduction. Alors, les violences éducatives ordinaires, c'est une forme de violence à laquelle les enfants sont soumis dans le cadre de l'éducation. Ces trois mots mis ensemble peuvent parfois choquer, surtout les deux premiers. On nous fait souvent la remarque de nous dire « mais comment peut-on associer le mot « violence » et le mot « éducatif » ?» Pourtant, voilà, on a bien conscience qu'il y a une énorme incohérence là-dedans, mais c'est une incohérence qu'on assume totalement puisqu'elle est puisée dans la réalité, puisque je pense qu'on va y revenir plus tard. C'est une réalité que les enfants sont éduqués avec violence, et ce, depuis très longtemps, et partout dans le monde. Alors, les violences éducatives ordinaires, bien sûr, vous avez le mot « ordinaire » juste à la fin, qui indique que du coup, ce sont des violences qui se font dans un cadre très banal, très banalisé, et en termes de temporalité, et en termes de gestuelle. Donc, ce sont des violences qui sont destinées, qui ont pour finalité, de la part de l'adulte, d'éduquer l'enfant, donc pour son bien, pour lui apprendre quelque chose, pour qu'il obéisse, et elles sont faites tout au long de la vie de l'enfant, au vu et au su de tout le monde. On ne dresse pas de liste de violences éducatives ordinaires. C'est souvent quelque chose qu'on nous demande, mais c'est pas possible et c'est un non-sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les violences éducatives ordinaires, en fait, ça a plutôt trait à une posture parentale qui serait violente, plutôt qu'à un geste en lui-même ou à une parole en elle-même. On peut tout à fait imaginer un même geste qui soit fait de façon très violente et un même geste qui puisse être fait de façon bienveillante et en ayant une intention bonne derrière. Du coup, c'est pour ça que c'est complètement incohérent de dresser une liste et de dire « voilà, en mode liste de supermarché, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Je pense que ça induirait vraiment les parents sur une mauvaise piste, et en tout cas chez Stop VO, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on aborde la question. En revanche, on peut citer des exemples, bien sûr, de violences éducatives ordinaires, avec plusieurs catégories qui émergent donc de cette problématique. Les violences physiques, bien entendu, alors la fameuse sacro-sainte fessée, hein, on l'a tous, je crois, en tête, puisque la loi dont tu parlais en introduction s'est même fait raccourcir dans l'opinion publique par la loi anti-fessée, même si, bien évidemment, c'est bien plus que ça. la fessée, la claque, la gifle, tirage d'oreilles, tirage de cheveux, etc. On a aussi tout ce qui est violence psychologique, les insultes, les cris, les menaces, le chantage affectif, les violences verbales, donc qui sont très fortement mêlées bien évidemment aux menaces psychologiques, mais qui ont directement attrait aux mots prononcés voilà, envers l'enfant. Et dans ces catégories, voilà, comme je te dis, rentre des tas de postures violentes du parent vers son enfant qu'on ne peut qu'imaginer.
Très clair. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur ce combat-là ?
Oh, j'ai décidé, c'est un bien grand mot. C'est un petit peu une décision qui s'est faite, on va dire, à mon insu. Tout simplement, j'ai découvert un jour en ouvrant les réseaux sociaux, voilà, un fait de violence très très grave sur un bébé de 17 mois en Angleterre qui s'appelait Baby P. Enfin voilà, c'était en 2008. C'est une affaire qui a fait grand bruit là-bas, outre-Manche, et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu un article en anglais, et les tabloïds anglais ont tendance à beaucoup donner de détails sur voilà, c'est un petit peu le côté qui fait vendre, on va dire, mais voilà, il y a beaucoup de détails sur la mort de cet enfant. C'était de la maltraitance évidemment très très lourde. On n'est pas dans la violence éducative, mais moi ça m'a posé question. Je me suis dit, j'étais jeune maman à l'époque, je m'étais jamais intéressée à la question, et je me suis dit, mais comment on peut faire ça à son enfant, en fait, c'est incroyable. Et je me suis mis à chercher, à lire, à vouloir comprendre en fait ces phénomènes de violence parentale sur les enfants. Et voilà, ça m'a tout simplement fait croiser sur mon chemin le formidable ouvrage d'Olivier Morel qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne » ou « Comment la violence éducative l'a pervertie depuis des millénaires ». Et voilà, sans jeu de mots idiot, mais ça m'a donné une sacrée claque parce que je me suis dit, bah en fait, il a tout compris. Il a tout compris. Il a compris que la violence sur les enfants, elle prend ses racines dans la violence éducative ordinaire. Alors Olivier marche sur les traces d'Alice Miller, hein, bien sûr, qui disait que la violence éducative est le terrain fertile de la maltraitance. Mais voilà, dans ce livre où Olivier vraiment montre ce qu'est la violence éducative ordinaire et pourquoi c'est un combat essentiel, et ben il m'a embarqué dans son combat ce jour-là, et du coup je me suis mis à vouloir en parler sur les réseaux sociaux, et comme voilà comment est né Stop VO. On a créé des groupes Facebook, on s'est engagé, on a vu très rapidement qu'il y avait un engagement politique nécessaire pour faire passer cette fameuse loi, et puis on a rencontré les militants qui militaient déjà depuis voilà, qui ne m'avaient pas attendu et fort heureusement pour commencer, dont notamment la députée Edwige Gentier, députée UMP, qui a été la première en 2009 à vouloir faire une proposition de loi. Ça n'a pas été bien loin, mais ça a amorcé quelque chose. Et puis voilà, le docteur Gilles Lazimi, bien évidemment, et tant d'autres.
Justement, aujourd'hui en France, est-ce que tu pourrais nous dire où on en est sur les violences éducatives ordinaires ? Bon, je pense qu'évidemment, tu peux nous parler de la loi, mais également où on en est d'un point de vue éducatif dans les foyers ?
Alors c'est encore compliqué. Alors la loi a quand même fait son effet. Hein. Voilà, je pense qu'il y a quand même un avant et un après. Enfin, je suis sûre qu'il y a un avant et un après 10 juillet 2019. Même si à notre goût et avec les revendications entre guillemets qu'on avait de mise en application de cette loi, ça ne va pas assez loin, et on continue de toute façon, Stop VO continue de porter très fortement ce plaidoyer pour la mise en application et la reconnaissance et connaissance de cette loi par tous. Voilà, il faut qu'elle infuse dans la société bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Néanmoins, les pratiques parentales ont changé. On reconnaissait par exemple il y a encore peut-être quoi 7-8 ans, en fait le chiffre qui circulait, c'était que 85% des parents mettaient des fessées à leur enfant. Suivant le dernier baromètre IFOP qui a été sorti par la Fondation pour l'Enfance très récemment, je crois que c'était en fin d'année dernière, dans le panel des parents interrogés, c'était 23% qui admettaient avoir mis une fessée la semaine avant avoir été interrogée par ses études. Donc voilà, je pense en tout cas pour la violence physique, c'est très clair que on assiste à des vrais changements. Je pense que les parents sont de plus en plus sensibilisés que frapper un enfant c'est mal et surtout que ça a des conséquences pour lui. Les violences psychologiques, c'est plus compliqué parce que bien évidemment les contours sont plus difficiles à déterminer et puis surtout le gros point sur lequel on insiste énormément et on va dire le gros point négatif dans la société, c'est que les parents ne sont pas suffisamment aidés pour dans leur parentalité en fait pour y voir clair et puis pour être soutenus tout simplement dans une démarche d'accès à l'éducation non violente. Or c'est vrai que en fonction de ce que nous dit la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi du 10 juillet 2019, désormais l'éducation non violente en France, c'est la norme.
Pourquoi tu penses qu'en France les violences éducatives sont encore autant ancrée dans notre culture, même si tu l'as bien souligné, hein, il y a eu de belles évolutions, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça revient régulièrement dans les débats d'éducation, alors que moi j'ai envie de dire, on devrait même plus en parler tant on sait que c'est nocif pour les enfants. Pourquoi est-ce que tu penses qu'en France on est encore tant imprégné par cette culture-là ?
Quelque chose qui fait, à mon sens, vraiment qu'on a du mal de s'affranchir en fait du fait que l'enfant ne serait pas mauvais par nature.
Ouais.
On a du mal à s'affranchir de cette idée, je pense très freudienne, pardon, que voilà, il y a chez l'enfant tout un tas de comportements déviants à faire taire dès la naissance et conjointe à cette idée, il y a l'idée aussi que l'autorité parentale, je ne sais pas pourquoi, ne se poserait qu'avec de la violence. Voilà, on a du mal de se détacher du fait que voilà, si on n'est pas un petit peu violent ou beaucoup violent avec son enfant, ben il obéira pas. Et voilà. Et puis cette idée, voilà, que les enfants doivent obéir. C'est triste parce que effectivement, il y a une tellement plus belle vision de l'enfant, de l'enfance, de la parentalité qui pourrait être voilà, commencer à émerger en France. Mais je pense voilà qu'on va y arriver, hein, parce qu'il y a des très belles personnes aussi qui œuvrent dans ce domaine tous les jours et voilà, je pense au docteur Catherine Guéguin, je pense à Isabelle Filioza, je pense à des personnes comme Papa Positif qui font un boulot extraordinaire sur les réseaux sociaux, voilà, pour montrer en fait que non, l'enfant n'est pas quelqu'un de voilà à corriger et que les violences éducatives n'ont juste pas leur place dans la société. Je pense que c'est un des éléments et voilà, on a encore du chemin à faire et la reconnaissance en fait des études en neurosciences notamment affectives et sociales devrait à mon sens plus émerger dans les formations initiales des professionnels de la petite enfance.
Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les conséquences nocives de ces violences auprès des enfants, mais je pense aussi auprès des parents ?
Oui, alors tu fais bien de souligner, hein, effectivement, c'est les violences éducatives, c'est quelque chose qui gangrène tout un système. Alors, je vais même plus loin que toi, c'est les enfants, c'est les parents, mais c'est toute la société, en fait, qui est affectée par les violences éducatives. Alors, pour les enfants, bien évidemment, en premier lieu, c'est les premières victimes, hein, c'est sûr. Ça affecte directement leur santé. En fait, le docteur Lazimi, par exemple, nous voilà a rédigé un article scientifique dont je me suis inspirée pour... dont je m'inspire là pour te répondre en fait voilà parce qu'il précise en fait que depuis la naissance le cerveau de l'enfant croît, il se développe et en fait il triple de volume et c'est une période où le jeune humain en fait doit tout apprendre, il doit apprendre la station debout, la marche, le langage, parler, l'habileté manuelle, la conscience de soi et des autres et c'est vraiment à cette période où finalement ces apprentissages sont exponentiels et fondamentaux. C'est à cette période, en fait, qu'avec les violences éducatives, on inonde son cerveau de stress et on altère son fonctionnement cérébral. Le stress, en fait, c'est une production massive des hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline. qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps, mais évidemment quand on n'est pas soumis constamment à un stress, voilà, parce que si on est constamment soumis à un stress, on produit constamment ces hormones et au final elles deviennent un poison pour le corps. Donc très clairement les violences éducatives ordinaires, c'est ça que ça produit, hein, c'est faux. Quand on entend les adultes dire une bonne fessée a jamais fait de mal à personne, ou moi j'en ai reçu, j'en suis pas mort, ou je ne sais quelle autre bêtise, bien évidemment c'est faux. C'est la marque du déni qui s'est inscrit dans leur cerveau, alors que voilà, quand ils étaient petits, ils recevaient des violences éducatives ordinaires, et bien évidemment que ça leur faisait du mal. Effectivement, c'est donc déjà médicalement dans un effet, dans un très très court terme, voilà ce qui se produit et c'est dramatique, et ça génère sur le long terme des altérations après au niveau de la santé. En termes de comportement, les violences éducatives ordinaires, et là je m'appuie sur les travaux du docteur Muriel Salmona, qui nous explique qu'en fait on rentre dans un phénomène de stress post-traumatique aussi, d'effraction psychique, puisque on est clairement, enfin l'enfant est clairement en état de sidération. La sidération, c'est un état qui arrive lorsque une violence que l'on reçoit est trop forte pour être intégrée comme telle par le corps. Il y a comme une espèce de fusible qui permet au corps et à l'esprit de disjoncter. Donc on est dans un premier temps sidéré, c'est-à-dire qu'on est capacité de bouger ou de réagir normalement ou de se défendre ou de fuir. Et puis le deuxième état que génère ça, c'est la dissociation. On a l'impression d'être en dehors de son corps, en fait, de ne plus vraiment être acteur de ça. Alors c'est ce que décrivent beaucoup de personnes, je vais peut-être choquer, je le sais, mais je vais le dire quand même, hein, qui ont subi des viols. Et le docteur Muriel Salmona, très clairement, elle assimile en fait les effets d'une violence éducative sur un enfant à ce que peut subir une femme en situation de viol ou d'agression sexuelle. Donc effectivement c'est dramatique, tout ça on le voit bien, et donc du coup c'est comme ça que se construisent les enfants. Alors ton podcast s'appelle Les adultes de demain, et donc du coup effectivement ces enfants vivent en premier lieu une enfance où la place aussi pour leurs émotions, pour avoir accès à ce qui fait d'eux des êtres vivants et pleinement entiers, hein. Je vis une émotion qui exprime un besoin et grâce à ça je m'interconnecte avec les autres, avec ma figure d'attachement, avec mes frères et sœurs, etc., pour générer quelque chose de vertueux. Ben tout ça c'est annihilé, hein, par l'effet des VO, puisque on interdit en quelque sorte les enfants de vivre leurs émotions pleinement, hein. Voilà, ça va être, on va étouffer sa joie, tu vas te taire, on arrive dans 2 heures à Disney, je veux plus t'entendre, voilà, on va étouffer, voilà, c'est ça qui est terrible, c'est parce que même les émotions positives, même les choses qui devraient normalement faire partie d'une belle vie, en fait, sont étouffées par les violences éducatives. Et donc, du coup, voilà, c'est le genre d'enfant que vivent les enfants sous stress. Et on imagine très bien, parce qu'on n'a qu'à ouvrir les yeux sur notre société, de voir quel genre d'adulte stressé, fragilisé, complètement soumis à des formes d'autorité ou d'autoritarisme. Voilà, ça donne. Et pour les parents, alors dans le système parent-enfant, effectivement, c'est toxique, parce que le parent se trouve dans une posture de gendarme permanente, en fin de compte. On a l'impression, voilà, être gendarme, c'est très bien, mais je pense que les gendarmes, je n'en connais pas forcément personnellement, mais je pense qu'ils sont contents de laisser leur képi quand même le soir, et puis de revenir, redevenir un petit peu eux-mêmes. Les parents, en fait, en posture d'éducation autoritaire, autoritariste, qui engendre des violences éducatives, sont toujours dans cette posture de poser des interdits, de crier après, de recadrer, de voilà. Et donc en premier lieu, ben c'est fatigant, hein, tout simplement. Ça ne marche pas, parce que plus on va on va commettre des violences à l'encontre d'un enfant, ça va avoir un effet à court terme, hein, comme on l'a vu, la sidération, etc. Mais à long terme, il n'y a absolument aucun message éducatif qui passe. Il n'y a aucune construction éducative. Donc du coup, on est amené à repasser le message et encore et encore et encore et à l'adapter et à le renforcer parce que l'enfant grandit. Donc l'enfant trouve, entre guillemets, des subterfuges pour échapper à ces choses-là. Et il va mentir, il va trouver voilà des biais. Et donc on construit une relation qui est finalement assez pauvre avec son enfant, et on est toujours dans cette posture-là. Et puis, chose essentielle aussi, on s'oublie en tant qu'être humain, on oublie, parce que peut-être on a oublié, alors j'ai l'impression de tirer à boulet rouge sur les parents qui commettent des violences éducatives ordinaires, c'est vraiment pas du tout l'idée, c'est plus, voilà, je remue peut-être un peu les consciences, tant pis, mais je veux dire par là, si tous ces comportements arrivent, c'est parce que nous-mêmes, on est empreint de tout ça et que c'est un cercle vraiment vicieux qui s'est mis en place. Il n'y a pas de responsabilité consciente, voilà, pas de parents à mettre en prison. Je rassure tout le monde, c'est vraiment pas l'idée. En revanche, faut savoir que voilà, effectivement, on s'oublie soi-même et on oublie de prendre du temps de répondre à ses besoins et de faire comprendre aussi à nos enfants que nous aussi on a des besoins et que ils doivent être aussi, parce que nous on respecte les leurs, être en mesure de respecter les nôtres. Donc là, pour le coup, c'est un cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place. Quand on est exempt de violence éducative, et effectivement, voilà, le système parent-enfant fonctionne quand même mal avec les violences éducatives. Et donc, je disais, voilà, pour conclure cette question, que c'est toute une société qui s'installe avec ces violences, et c'est un système, voilà, avec de la domination, du plus fort, de la déshumanisation, voilà. On voit arriver de la délinquance, du vandalisme, des répétitions de ces violences, hein, sous plein de formes. Hein. On a des études très claires qui montrent que les violences conjugales et les violences éducatives, ou la maltraitance en tout cas, même les violences éducatives, en fait, sont extrêmement liées. Répétition de la violence sur ses propres enfants, dans le monde de l'entreprise, voilà, on n'en parle même pas. C'est dramatique, voilà, c'est pas quelque chose de vertueux qui se met en place pour une société. C'est pour ça qu'il était temps, voilà, de le prendre par le haut, par la loi, et de continuer à faire infuser tout ça.
Ouais. Ce que j'aime beaucoup, quand on avait discuté en off avant d'organiser cette discussion, c'est que tu parlais d'un continuum des violences dans la société. Donc ça fait totalement écho à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, oui, c'est une question très importante. Cette idée de continuum, en fait, des violences, elle est née en 1987 dans le cadre des violences faites aux femmes. En fait, c'est d'une personne qui a dit qu'il y avait très clairement un continuum entre la blague sexiste et puis véritable violence très forte faite aux femmes, sans du coup en voulant ne plus hiérarchiser ces formes de violence. Alors, on n'a pas encore véritablement de concept sur les violences faites aux enfants de continuum, mais on ressent en tout cas par le travail qui est fait avec les associations qui traitent des maltraitances caractérisées ou sur l'inceste ou les violences sexuelles, on voit qu'on converge très très clairement parce que c'est en fait, il y a plus de cloisonnement finalement entre ces violences. C'est un peu dans l'esprit du proverbe qui vole un œuf vole un bœuf. En fait, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Donc, c'est vrai que admettre qu'on peut commettre des violences éducatives sur un enfant, en fait, c'est ouvrir une porte. Voilà, elle est entrouverte. Et dès lors qu'on a mis le pied dedans, c'est-à-dire qu'on s'est permis de dire, là, pour ton bien, ce que t'as fait, ça mérite une fessée, donc je te tape. Voilà, on a commis quelque chose qui s'appelle une violence. On n'a pas respecté l'intégrité physique de son enfant. À ce moment-là, parce que faut quand même rappeler que les enfants ont des droits et que leur corps, c'est leur corps, c'est pas celui du parent. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi on est en retard aussi dans la société. Je pense qu'il y a dans la société française, je pense qu'il y a aussi cette idée que mon gosse, c'est mon gosse, je fais ce que je veux avec. qui est quand même encore très prégnante et qui est fausse, hein, voilà, on ne fait pas, non, c'est pas vrai, on ne fait pas ce qu'on veut à son enfant. Et donc du coup, le fait de, voilà, de continuer à avoir cette cette projection de c'est ma chose, j'allais dire, oui, il m'appartient, c'est pas vraiment son corps, j'en fais ce que j'en veux, ça ouvre la porte au fait que bah finalement à un moment donné qu'est-ce qui va faire la différence entre ce qui est moralement et éthiquement acceptable de faire à un enfant et ce qui ne l'est plus lorsqu'on a cette vision là ça induit ça et puis ça induit aussi pour l'enfant en fait donc pour le parent pour l'adulte qui va avoir une conception de l'enfant complètement faussée hein, d'un être qui n'a pas de droit à qui je peux faire ce que je veux voilà etc l'enfant va aussi recevoir ce message implicitement l'intégrer en se disant ben de toute façon moi quand je fais des bêtises ma figure d'attachement primaire ma mère mon père me tape donc et en plus il justifie en disant que c'est pour mon bien donc ok ça doit être pour mon bien il y a un truc là qui se passe ok j'intègre ça. Tout ça est bien évidemment pas conscientisé, mais intégré quand même, parce que faut savoir que dans le cerveau les violences éducatives s'intègrent comme un apprentissage à part entière. C'est comme si on apprenait une langue étrangère. Lorsqu'on apprend à recevoir des violences éducatives ordinaires, en fait, c'est tout le cerveau qui apprend ça comme un apprentissage et qui va se dire « Ok, moi, quand je fais des bêtises, je reçois des fessées. Normal. » Et donc, du coup, quand l'enfant a cette idée-là et qu'il sait que l'adulte peut lui faire ça et qu'il va lui dire avec le message « C'est pour ton bien, c'est entre nous, c'est notre petit secret, moi, j'ai le droit de te faire ça. » Tu vois où je veux en venir. Donc ça induit vraiment cette forme misérable en fait de faire taire l'enfant pour des violences qui je provoque hein, très clairement en utilisant ce vocable, mais j'ai vraiment envie que le message passe parce que cette histoire de continuum il est extrêmement important. Voilà, l'enfant ne va pas faire la différence et plus grave encore, l'enfant ne va pas être en mesure de parler et de l'exprimer. Alors que dès lors que l'on met une barrière très claire sur ce qu'on a le droit de faire à un enfant, là, je n'ai pas le droit de te toucher, je dois te demander ta permission pour te déshabiller, je dois, voilà. C'est des choses qui paraissent peut-être, voilà, je sais que ça peut paraître d'un autre monde et d'un, voilà, et que souvent, pour les parents, il y a une intention de bien faire. Néanmoins, il est vraiment urgent de faire grandir cette notion de droit des enfants et de ce qu'est l'intégrité physique et psychologique d'un être humain, quel que soit son âge. Et on va là rejoindre tout ce qui se passe sur les violences faites aux aînés, hein, voilà, où on a peut-être aussi une impression que dès lors que le corps est fragilisé par son état, on peut de nouveau se permettre de faire des choses sans leur consentement. La question du consentement, voilà, c'est un mot extrêmement important.
Pour autant, en France, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de violences éducatives ordinaires, et notamment lorsqu'on parle d'absence de violence, on associe ça à une éducation laxiste, sans cadre, sans autorité, enfant roi. Bon, on les connaît par cœur, les expressions. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on en arrive là ?
Ouais. Alors déjà, à mon sens, il y a un vrai problème de sémantique, en fait, entre ce que les détracteurs de l'éducation sans violence appellent laxisme. En fait, ce qu'ils nomment, ce serait de la négligence. Ouais. Parce qu'ils s'imaginent, en fait, qu'éduquer sans violence, c'est laisser tout faire à l'enfant. Ils ont l'idée d'un parent démissionnaire qui n'aurait aucune volonté d'éduquer. Ça voudrait dire donc, si on pousse leur raisonnement plus loin, que sans violence égale sans éducation. Donc, la responsabilité parentale ne pourrait s'exercer qu'avec de la violence. Bon, déjà là, il y a quand même quelque chose qui est assez particulier à intégrer. Ça leur appartient, moi c'est pas quelque chose que je comprends, mais voilà. Ça voudrait dire en fait du coup le système parent-enfant, le système, voilà, la famille, le foyer, finalement ne fonctionnerait qu'à la condition qu'un parent soit violent et que du coup tout ce qui est nécessaire d'avoir, comme cadre, comme règle, comme limite, ne pourrait se poser qu'avec de la violence. Moi, ça me, toujours pareil, ça me pose question. Et en fait, c'est aussi, c'est étonnant, l'éducation autoritariste, ou je ne sais comment la nommer, en fait, réduit souvent l'éducation au simple fait de punir. C'est toujours ce qui revient, en fait, finalement, c'est... alors, c'est corriger des comportements inadaptés des enfants, c'est trouver comment faire, ce qui marche pas avec tel enfant, et à quel moment je le punis, à quel moment ça marche, voilà. C'est vraiment toujours ce qui revient dans les discussions, et en fait, on a l'impression qu'on se concentre sur les interdits, sur les trucs pas bien, sur les sans voir que bah la vie c'est quand même un petit peu plus que ça quoi en fait. Et le procès, on va dire, de cette forme de négligence qu'on fait aux parents qui utilisent ce qu'on appelle l'éducation sans violence. Il est complètement antinomique parce qu'en fait quand on éduque sans violence on est comment dire, pas obligé, c'est pas le mot, mais ouais, c'est presque, enfin si, c'est comme ça devient, enfin ça appelle une nécessité vraiment de comprendre le développement de l'enfant parce que éduquer sans violence, c'est pas laisser son enfant tout faire, mais ce n'est pas imposer des choses à son enfant qu'il n'est pas en capacité de faire à l'âge qu'il a. Et donc c'est ça, je pense, qui choque des fois, c'est parce que voilà, les parents qui s'informent et qui arrivent parce que ils y arrivent et parce que ils ont cette volonté et qu'ils sont en capacité de le faire, à éduquer et à prendre ce chemin de l'éducation sans violence, savent voilà qu'on ne demande pas à un enfant de 3 ans les mêmes choses qu'à un enfant de 8 ans. On va prendre un exemple tout bête, hein, attendre dans une salle d'attente de médecin, voilà, bon, peut-être un enfant de 8 ans, si on lui donne un livre, si on s'occupe à jouer avec lui, à parler avec lui, etc., ça va passer. Un enfant de 2 ans, ça va être bien plus compliqué s'il y a beaucoup d'attentes. Donc effectivement, le parent va autoriser ce que son enfant se lève de la chaise. Oui, il a envie de bouger la chaise, ça grince par terre, il va l'autoriser, il va autoriser à aller dans le couloir, il va se lever, faire 1000 allers-retours, etc. Voilà. Et puis, par le regard des autres, ça peut être, oh là là, elle sait pas tenir son gosse, c'est gênant, moi je suis pas là pour entendre ces bruits de chaise, moi je suis pas là pour entendre ses cris, moi je suis pas là pour entendre... Oui, c'est vrai, mais un enfant de 2 ans, ce n'est pas en capacité, de faire ces choses-là. Donc voilà, je pense le gros souci, c'est que cette conscience du développement de l'enfant et de ce qui est capable de, ce qui est possible de faire, ça nous amène effectivement, ça amène les parents à avoir des comportements différents de simplement tais-toi et obéis et je veux pas t'entendre. Donc voilà, c'est je pense que c'est un peu ça, hein, en fait. Et puis c'est vrai que ça, c'est encore nouveau, hein, on l'a dit plusieurs fois, d'être à l'écoute des émotions et des besoins de son enfant, d'être en capacité de recevoir. Alors c'est pareil, hein, recevoir la colère d'un enfant, recevoir sa tristesse, c'est pas le laisser tout faire. Attention, il y a une grosse confusion aussi là-dessus. Dire t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, quel que soit l'âge de l'enfant, oui, il en a le droit. En revanche, il a pas spécialement le droit de l'exprimer de toutes les manières. Il a pas le droit d'aller taper sa sœur, il a pas le droit de faire un trou dans le mur, il a pas le droit de voilà. Et ça, c'est des choses. Mais l'éducation sans violence, ça demande de la patience, ça demande des connaissances, ça demande beaucoup de choses. Tout ce qui différencie, en fait, de la négligence. Donc c'est bien un faux procès qu'on nous fait.
Ouais, c'est vrai. Et c'est magnifiquement bien expliqué. Merci beaucoup, Céline, pour ça. On arrive déjà à la fin. J'aimerais en profiter, vu qu'on se rencontre aussi dans le cadre du podcaston, que tu nous parles de Stop VO. En quoi les parents qui nous écoutent, les adultes, les professionnels de l'éducation peuvent s'emparer des outils que vous mettez à disposition pour vraiment comprendre ces violences éducatives ordinaires et les stopper. Donc voilà, c'est l'instant promo de ta magnifique association.
Merci. Alors oui, promo. De toute façon, ça va. Tout va dans le sens de ce que j'ai raconté jusque-là. Hein. Enfin, Stoveo, c'est avant tout effectivement une association qui est composée de bénévoles avec des gens magnifiques qui ont travaillé sur des outils que je vous invite à découvrir parce qu'ils sont pour la plupart gratuits et téléchargeables gratuitement depuis notre site internet stoveo.org. Des affiches, voilà pour mettre dans les lieux d'accueil des enfants, des flyers, des petits kits. Il y a trois magnifiques campagnes télévisuelles et internet qui ont été faites coordonnées par le docteur Lazimi avec l'agence Publicis. Donc une qu'on a porté en 2017 avec l'OVO qui s'appelle Les mots qui font mal sur les violences verbales du coup et une qu'on a portée l'année dernière avec la Fondation pour l'enfance qui s'appelle Un dialogue et une autre entre-temps qu'on avait portée tout seul qui s'appelle Les mots que je ne te dirai pas. Donc sur notre chaîne YouTube, je vous invite à les découvrir si ce n'est déjà fait. Et puis Stoveo, ben voilà, on est toujours à l'écoute des besoins de cette société en fait, donc des parents. On met en place des outils. On a créé une prestation d'atelier de parentalité en fait, donc de groupe de parole qui s'appelle Être parent par tous les temps. Des ateliers dans lesquels les gens peuvent vraiment venir poser, pardon, leurs valises, hein, leurs bagages, sans jugement, sans prescription de méthode toute faite non plus. Hein. C'est pas des ateliers où on leur dit pour tel cas de figure, c'est telle chose qu'il faut adopter. Voilà. Les professionnels aussi, on est extrêmement sollicités par les professionnels, donc toujours nos outils mis à disposition pour eux, mais aussi l'ouverture en 2021 d'un organisme de formation StopVO et une certification Calliope qui est arrivée derrière pour nous permettre voilà de proposer de la formation aux professionnels voilà. Et puis toujours voilà des conférences hein, qu'on peut faire qui vont ressembler étrangement à tout ce que j'ai dit aujourd'hui avec un petit peu plus de visuel derrière et puis voilà l'animation de ciné-débat on nous contacte quand il y a besoin et puis on travaille voilà en fonction.
C'est génial. Et tu as oublié aussi de parler de ton livre que j'ai adoré, qui s'appelle Le décodeur des violences éducatives ordinaires, que j'invite vraiment tous nos auditeurs à découvrir parce que voilà, ça reprend certainement des choses que tu as dites, mais aussi ça vient donner beaucoup de profondeur à tout ce que sont les violences éducatives ordinaires et les solutions que nous avons. Merci Céline pour ton temps et surtout bravo pour ce que tu fais. C'est un combat essentiel. C'est pas terminé, mais on vous soutient à 100%.
Merci Stéphanie, ça me va droit au cœur et oui, on a besoin d'être soutenu. Alors soutenu non, parce que moi j'estime que tu fais partie aussi intégrante de ce combat en me donnant aujourd'hui la parole. Combat, c'est pas très joli, mais voilà, on va dire cette avancée sociétale nécessaire.
Merci, à bientôt. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.